Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. C'est si tu portes une casquette. C'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis. Ton vol volé et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info du vendredi et il est exactement 19h, peut-être 3 ou 2, je sais pas, elle est un peu en retard l'horloge. Bref, donc ce soir on va vous parler tout d'abord des familles albanaises du square de Brabant qui se sont fait expulser.
Je crois que c'est Barabant.
Barabant, pardon. Ouais, moi, je lis bêtement ma feuille.
Et alors ça c'était à Lyon, on enchaînera ensuite sur l'actualité à Bure dans le nord-est de la France et on a des militantes et militants qui vont venir nous expliquer, qui sont là en plateau, nous expliquer ce qui s'est passé notamment ce week-end.
On reviendra ensuite sur le nucléaire depuis les années 70 et les luttes qui s'y opposent.
On ira ensuite à Montpellier pour parler du carnaval qui retrouve un air de fête.
Et puisque le Canu Info du vendredi est partout, on vous passera ensuite un reportage sur la manifestation à Nantes de samedi dernier.
Et ensuite, on vous lira un petit texte qui s'appelle « Surtout restez sages ou vous aurez les fascistes ».
Et on vous parlera de comment un militant qui est assez actif pour les migrants et les migrantes, il a été interdit de s'exprimer à la presse.
Et ensuite, on vous parlera de la mairie de Calais qui interdit les distributions alimentaires.
Et on terminera par la rubrique phare du Canu Info du vendredi. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Notre spécialiste est lui aussi en plateau.
Le gaz de schiste.
Le gaz de schiste et PNB Paribas.
Tout ça en seulement 58 minutes.
Et ensuite,
et puis on finira par le traditionnel agenda du Canu Info du vendredi.
Et c'est parti.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous, il s'agit de la fermeture de ces... En bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes, en chantant résiste.
Et dans la rubrique locale, on parle encore de crise du logement et de l'hébergement. Parce que la mairie, la préfecture et le tribunal administratif de Lyon sont et restent bien déterminés à continuer leur guerre aux personnes sans abri, sans pour autant proposer aucune solution. Hier, jeudi 2 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a décidé l'expulsion sous 72 heures de 24 familles de nationalité albanaise du square Barabant qu'elles occupaient depuis le 10 février. En fait, donc ces 24 familles albanaises qui représentent une centaine de personnes, dont de nombreux enfants, dormaient dans des tentes en plein hiver sur cette place depuis le 10 février, jour où elles avaient été expulsées d'un autre endroit, le square Jugan, vers la Part-Dieu, par la police elle-même qui les avait conduits du coup au square Barabant. À l'époque, la ville de Lyon avait prétexté pour justifier cette première expulsion une remise en état urgente des pelouses en plein hiver. Le square Jugan est toujours fermé. Aujourd'hui, la ville de Lyon prétexte des problèmes imaginaires d'hygiène afin de dénoncer l'occupation illégale des lieux et demander au tribunal administratif d'expulser immédiatement ces familles du square Barabon. Selon le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, qui a pas mal suivi cette situation, la quasi-totalité des familles albanaises du square Barabon sont en procédure de demande d'asile et à ce titre devraient être hébergées comme l'exigent les lois françaises et européennes, en attendant la réponse de l'OFPRA sur leur demande d'asile du coup. Donc le MRAP avait donc appelé à un rassemblement hier, le jour de l'audience, à 10h, devant le tribunal. À ce rassemblement, il y avait donc une quarantaine de personnes concernées par le risque d'expulsion, plus des personnes en soutien. L'audience s'est déroulée donc hier, et les juges des référés ont ordonné l'expulsion de ces familles sous les 72 heures prochaines. En cas de refus de partir spontanément, les forces de l'ordre seront déployées pour procéder à une évacuation. Le communiqué du tribunal administratif stipule, je cite, « Le juge des référés a en effet estimé qu'en dépit de l'aide apportée par diverses associations et le responsable de la paroisse du Sacré-Cœur, les conditions d'hygiène de ce camp de fortune, dépourvues de tout équipement sanitaire, rendaient à la fois utile et urgente la mesure d'expulsion sollicitée par l'autorité municipale. » Concernant le fait que ces personnes soient demandeurs d'asile, la préfecture avait aussi dit « Il faut qu'ils nous prouvent leur situation, sachant que c'est la préfecture qui enregistre la demande d'asile. Si ce sont des individus en demande d'asile, on les logera. L'hébergement d'urgence relève de la compétence de l'État et les mouvements contre le racisme et pour l'amitié des peuples qui avaient défendu ces familles devant le juge reprochent à la préfecture une gestion inhumaine et illégale de la question des migrations. » Et la préfecture, du coup, continue à dire qu'il n'y a aucun ou aucune demandeur d'asile parmi ces personnes. Et qui, si les familles en faisaient la demande, elles seraient alors logées conformément à la procédure. La préfecture oublie au passage l'obligation des autorités d'héberger toute personne à la rue. Dans une ordonnance datée du 10 février 2012, le Conseil d'État, en fait, avait rendu une décision précisant les obligations des pouvoirs publics comme terre d'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri. Elle précise qu'il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Le Conseil d'État ajoutait qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche pouvait faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Principe facilement oublié par les pouvoirs publics lyonnaises, qui croient suffisant placer des personnes dans un gymnase pendant une semaine en hiver par an pour assouvir à leurs obligations.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries, là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et nous revoilà dans le Canu Info du vendredi. Et on a la chance ce soir d'être avec des gravitantes et des gravitants de Bure. Alors, de ce que j'ai compris, ça veut dire des personnes qui s'investissent dans la lutte à Bure, du coup, contre la construction d'un endroit pour enfuir les déchets nucléaires. Et du coup, on va redécouvrir avec elles, parce qu'on a déjà eu la chance de les avoir en plateau, qu'est-ce qui se passe à Bure et l'évolution de cette lutte. Alors, peut-être un peu pour revenir sur les sigles, toujours un peu parfois incompréhensibles, et un peu sur qu'est-ce qui se passe techniquement là-bas. Qu'est-ce que c'est donc cette lutte à Bure, Cigéo, Landra, tous ces noms qu'on entend quelquefois.
Bure se situe dans la Meuse, donc c'est pas très loin de Nancy. Là-bas a été décidé par l'ANDRA, donc c'est l'Agence nationale d'enfouissement de déchets radioactifs, de construire un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Et donc il y a déjà un laboratoire qui existe là-bas, il y a le projet pour enfouir ces déchets, et il y a des gens qui s'y opposent depuis de nombreuses années là-bas.
D'accord. Et du coup, comment est-ce que ça se concrétise un peu, cette opposition?
Il y a une... une opposition aussi bien citoyenne que... Ça prend différentes formes depuis de nombreuses années. Et bah, par exemple, il y a eu une manif le 18 février dernier qui a rassemblé plein de manières de lutter différentes.
Ouais, il y avait environ 600 personnes qui étaient là et qui sont venues un peu de toute la France, donc de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y avait plein de gens qui vivent dans les communes à côté, en fait, qui sont investis dans le projet depuis super longtemps et qui sont opposés donc, au projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires. Et ouais, la lutte, elle prend plein de formes. Elle prend une forme, effectivement, de manifestations, mais il y a aussi des cultures agricoles qui sont faites sur des terrains qui sont squattés, en fait. Enfin, squattés. Voilà.
C'est pas un gros mot.
C'est pas un gros mot, mais voilà. En fait, des terrains qui appartiennent à l'Andra et en fait, qui voudraient y faire passer des voies de chemin de fer pour transporter les déchets nucléaires par train, en nous assurant que c'est tout à fait safe et qu'il n'y a aucun problème avec ça.
C'est écologique le train.
Oui, c'est très écologique le train. Et donc, voilà, donc ces terres, en fait, on a mis des semis dedans, il y a du blé qui pousse, des patates, tout ça.
Et du coup, la manif du 18, il y avait aussi bien les réseaux citoyens type sortir du nucléaire que des gens plus déterminés à lutter physiquement sur le terrain. Donc il y avait vraiment des diversités de pratiques qui étaient très chouettes et qui ont été reconnues par toutes les composantes de la lutte. Et il y a aussi un énorme travail juridique qui est fait là-dessus. Pas mal d'audiences qui ont été rendues dernièrement.
Quels sont un peu les enjeux juridiques là, par exemple, est-ce que l'Andra a le droit de construire cette base d'enfouissement?
Maintenant, en fait, il faut savoir que le chantier est censé commencer en 2018. Ils sont censés demander des autorisations. Et donc, pour l'instant, tout ce qu'ils font, c'est censé être des travaux préliminaires. Ils voulaient commencer les travaux dans le bois Lojus, qui est donc situé juste à côté de Bure, qui appartenait à la base à la commune de Mandrembarois, juste à côté. Sauf que, très récemment...
Le 28 février,
le tribunal administratif de Nancy a annulé la session du conseil municipal qui avait cédé le bois à l'Andra, ce qui fait que le bois n'appartient plus à l'endroit, à l'Andra.
Et à nouveau citoyen de Mandre. C'est une victoire.
Et du coup, il y avait aussi un procès. Donc, ils avaient demandé l'expulsion des occupantes du bois Lejus. Et donc, l'audience de l'expulsion a été repoussée. Sans doute parce que c'était pas clair à qui appartenait le bois. Et du coup, maintenant, ça. c'est un peu plus clair. Ils déposent une plainte d'expulsion sur un lieu qui leur appartient plus. Donc c'est un peu paradoxal, c'est un peu étonnant, mais du coup on ne sait pas ce à quoi va ressembler la prochaine audience, mais ils ont pris des bonnes tollées juridiques ces derniers temps. Ils ont été aussi condamnés le 27, ils avaient fait appel, parce qu'ils avaient fait du défrichage sauvage l'été dernier, et ils avaient fait appel de la décision de condamnation, et leur appel a été rejeté. Donc ça a été une sale semaine, aussi bien sur le terrain judiciaire que sur le terrain physique.
Et médiatique,
puisque la manif, c'était quand même assez chouette, il y avait beaucoup de monde, et ça a été plutôt offensif, le message était fort.
Donc on rappelle que ça a été une sale semaine pour l'Andra, et pas du tout
ni militante, ni les militants et militantes de Bure, qui finalement ont gagné un peu du terrain.
Donc on se rend compte que d'un côté, il y a un peu, comme vous avez expliqué, là, ces outils juridiques qu'on peut retrouver dans les ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ou encore dans d'autres luttes. Et à côté, il y a les manifestations. Quand même, il y a eu beaucoup de personnes, non, ce 18 février, et du coup, ça a permis de donner une nouvelle ampleur, enfin, ou en tout cas, une nouvelle médiatisation à cette lutte.
Oui. Sachant qu'on a fait la une de 20 minutes à Paris, donc c'est, je crois, 3,5 millions d'exemplaires en une journée.
Oh yeah.
Ce qui a suscité aussi beaucoup de débats sur quelle médiatisation on veut pour la lutte, parce que 20 minutes, c'est des articles un peu dégueu. Et ils n'ont pas pu s'empêcher de parler de la récupération médiatique d'Europe Écologie et de Parti Socialiste, etc., autour de ça. Donc ça soulève d'autres questions, et du coup il faut aussi, en plus de grandir, de monter en puissance, il faut qu'on grandisse aussi en tant que quantité, que collectif. Je pense que c'est quelque chose d'important.
Et alors, un peu pour l'imaginaire de tous les canusiens et canusiennes qui vous écoutent ce soir, à quoi ça ressemble la lutte à Bure concrètement?
C'est bien.
C'est trop bien.
C'est génial.
C'est toutes ces personnes qui ont des parcours de vie extrêmement différents et qui un jour se sont retrouvées à Bure et qui sont restées, en fait. Et ça, c'est vraiment beau à voir, parce que tout le monde a ses expériences, les choses qu'il peut apporter de façon vraiment personnelle, et c'est un superbe mélange, en fait, de toutes ces personnes.
Ouais, et puis chaque personne est là pour une raison différente. Il y en a qui sont là contre ce projet, il y en a qui sont là contre ce monde en général, il y en a qui sont là pour construire autre chose, il y en a qui... Et en fait, on se retrouve toutes et tous sur une base commune, c'est qu'on refuse que ce projet se fasse ici ou ailleurs. Et à partir de là, on construit aussi d'autres choses. On est dans la forêt, il y a des cabanes qui se construisent. Il y a une grande maison où il y a plein d'activités, des activités artistiques, des activités de médic, de, où on prend soin les uns des autres. Les gens que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer là-bas sont trop chouettes. Il y a des liens super forts qui se créent, des amitiés en devenir. Et c'est assez fou.
Et il y a une vraie volonté de comment dire, de voir le monde dans lequel on est, comment on est arrivé là, et en fait d'essayer dans le collectif de déconstruire en fait tout ce qui nous a été imposé en termes d'institutions, en termes de comment on se comporte. Enfin, il y a énormément de questions sur le genre, sur le rapport à l'autre, sur enfin les phénomènes de domination en fait. Et il y a vraiment une volonté collective de bienveillance en fait les uns envers les autres, d'arriver à vivre le mieux possible ensemble. C'est beau à voir.
Ouais, une volonté d'un maximum essayer de déconstruire toutes ces choses qui nous oppressent au quotidien. Et évidemment, c'est des efforts et c'est un travail constant de réflexion, etc. Mais ça donne lieu à des attitudes qui sont très chouettes de manière générale. Enfin, je sais qu'il y a un effort particulier qui est mené à faire en sorte que personne ne soit spécialisé dans un rôle et que les connaissances se partagent, se transmettent. Et c'est très flagrant en fait qu'on tourne énormément sur les équipes cuisine, je sais pas, par exemple une semaine après avoir appris à grimper dans les arbres, on se retrouvait à apprendre à d'autres gens à le faire et on apprend tellement de choses au quotidien. Je sais pas, en une semaine j'ai touché pour la première fois une meuleuse et j'ai grimpé à 15 mètres dans un arbre et j'ai fait de la hache et c'était bien.
Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment sur plusieurs plans cette lutte, que c'est évidemment contre ce qui s'est en train de passer avec l'Andra et Cigéo, mais ça crée aussi du coup cet espace de rencontre et de construction de nouvelles formes de lutte aussi qui dépassent la question antinucléaire, même si évidemment ça l'englobe. Et du coup, c'est possible par exemple de se rendre à Bure et de trouver un accueil. Enfin, c'est aussi des questions très concrètes en fait, mais pour des auditrices ou des auditeurs qui nous écouteraient, qui auraient envie de participer de différentes manières par ailleurs en fait.
Bon. C'est tout à fait possible et je pense que tout le monde est accueilli à bras ouverts, vraiment. C'est, je le dis, vraiment beaucoup de bienveillance et il y a toujours un plaisir à avoir de nouvelles têtes arrivées parce qu'on sait que ces personnes vont apporter des choses différentes. Et du coup, concrètement, là-bas, il y a la maison à Bure qui s'appelle Bézédel, qui est la maison d'accueil en fait, et dans laquelle il suffit d'arriver. En fait, il y a toujours des places pour dormir et si on n'a pas, on s'arrange. Et puis, et il y a un site internet qui s'appelle vmc.camp. CAMP, sur lequel il y a toutes les informations, les fils infos, les comptes rendus médiatiques, tout ce qui s'y passe au quotidien en fait. Et on a une équipe automédia qui gère ça et qui est très complète. Donc pour toutes les informations, c'est là-bas.
Et puis dans l'idée de gravitante, donc la manière dont on a été présenté, c'est que n'importe qui venant là-bas, passant du temps là-bas et ayant envie de s'investir là-bas, a un poids décisionnel et investi dans les activités. Et du coup, il n'y a pas cette distinction entre habitants, habitantes et gens qui viennent une fois de temps en temps. Il y a dans cette idée gravitante vraiment quelque chose de l'ordre de la constellation et de forces qui convergent ou divergent selon les sujets, mais où il y a quelque chose de fort, quoi, un collectif.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez dire?
Ben nous, on y retourne bientôt. On sera très heureux de voir des Lyonnais ou plus arriver. Voilà.
En tout cas, je trouve que vous avez donné particulièrement envie de s'investir dans les murs. On oublie que c'est en Haute-Marne, c'est ça?
Dans la Meuse.
Excusez-moi.
Limite entre les deux.
Sachant que les paysages sont superbes, il faut juste y aller avec les yeux ouverts.
Ouais, la forêt est top. Avec le printemps, ça va être chouette. Venez.
L'invitation n'y est plus une théorie, c'est ça?
Exactement.
Oui, tout à fait. Effectivement.
Et donc du coup, parler de Bure, bah, ça nous permet finalement d'avoir envie de revenir un petit peu sur le nucléaire et les luttes qui ont pu être faites contre le nucléaire depuis les années 70.
C'est ça, tout à fait. Donc l'actualité de la lutte à Bure, ça donne le temps et l'occasion de se replonger un peu sur, euh, sur le développement de l'industrie nucléaire en France et donc son corollaire, l'essor d'un mouvement anti-nucléaire. Parce qu'il faut bien avoir conscience que ce qui se joue en ce moment à Bure, avec la question de l'enfouissement des déchets nucléaires, c'est un peu le dernier maillon de la chaîne de la production et de l'industrie nucléaire en France, à savoir réussir pour l'État à gérer les déchets nucléaires et ainsi boucler la boucle de l'utilisation énergétique du nucléaire et de pouvoir vendre ça à l'ensemble de la planète comme un modèle conçu, fini et presque sûr. Et donc c'est vraiment un moment crucial tant pour les populations locales qui s'opposent à cette entreprise d'enfouissement que d'une manière générale au mouvement anti-nucléaire international d'empêcher ça et de produire un contre-discours contre cette espèce de lobby du nucléaire. Donc le développement du nucléaire français, il répond à deux logiques inextricablement liées. D'une part, la volonté de détenir une puissance militaire qui est symbolisée par la bombe atomique et la mise en place d'une énergie centralisée, contrôlée par l'État et indépendante des relations extérieures. Donc son histoire, elle est complexe. Elle est soumise à des enjeux nationaux et internationaux, à des logiques économiques et militaires et à des objectifs politiques. Elle traverse la seconde moitié du XXe siècle et elle apparaît aujourd'hui comme une lente et inexorable marche vers une nucléarisation de la société. Pourtant, il serait trop simple de réduire l'histoire du nucléaire français à un schéma évolutionniste. Tant des forces contradictoires se sont opposées et s'opposent encore aujourd'hui, hein, comme à Bure par exemple, autour de cette question. Du coup, appréhender la question du nucléaire en France, ça passe par restituer des dates et des institutions clés qui ont marqué son histoire. On peut dire d'une manière générale que le développement du nucléaire ou l'intérêt du nucléaire porté par l'État, il débute au début du XXe siècle. Hein. C'est là où se développent des recherches scientifiques autour de l'atome et de ses effets, notamment en termes d'énergie. Donc on peut citer une date assez importante dans le développement du nucléaire, c'est l'année 1939. C'est l'année au cours de laquelle le scientifique Frédéric Joliot-Curie, qui est le gendre des scientifiques Pierre et Marie Curie, hein, ceux qui ont développé la radiologie à la fin du 19e siècle, il développe un procédé qui permet, à partir d'une réaction en chaîne de différentes composantes chimiques, de provoquer une fission nucléaire. Et c'est cette fission nucléaire qui va générer le déploiement d'une vaste quantité d'énergie qui peut être convertie en électricité, mais aussi en bombe atomique. Donc ensuite, c'est la Seconde Guerre mondiale qui représente véritablement un tournant pour l'industrie du nucléaire, hein, avec notamment l'utilisation de l'arme atomique, avec le tristement célèbre événement de Hiroshima et Nagasaki, où l'armée américaine en 1945 utilise la bombe nucléaire, donc la bombe A, puis ensuite une bombe plutonium pour réduire en cendres ces deux villes et la population qui y vit. Donc à partir de ce moment-là, la maîtrise de l'énergie nucléaire devient un synonyme de puissance militaire. Il est impossible pour les États internationaux de penser une présence militaire ou un rayonnement militaire sur la scène internationale sans se doter d'une puissance de feu nucléaire. Du coup, en France, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le pays est dirigé par un gouvernement provisoire, hein, à la tête duquel il y a le général de Gaulle. Alors de Gaulle, c'est une figure un peu clé du nucléaire en France, hein, puisque lui, c'est un grand partisan de l'énergie nucléaire, à la fois en tant qu'arme et à la fois en tant qu'énergie. Donc. Il va être un grand artisan du développement d'un complexe industriel et militaire nucléaire en France. Le credo de Gaulle, le credo politique de Gaulle, c'est l'indépendance de la France et le concept de souveraineté nationale. Faut bien comprendre qu'au sortir de la guerre, il y a un peu la guerre froide se met en place, hein, avec l'opposition des deux blocs et de Gaulle veut doter la France d'une certaine indépendance ou en tout cas qu'elle puisse jouer un rôle sur la scène internationale à ce moment.
Sa fameuse certaine idée de la France.
Voilà, tout à fait. Et donc, pour ce faire, pour développer l'industrie nucléaire en France, lui et par la suite la plupart des gouvernements politiques qui seront amenés à diriger le pays vont développer et créer des institutions spécialisées sur cette question-là du nucléaire. Alors, il y en a un certain nombre, mais la plus influente, c'est certainement le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui est créé en 1945, hein, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le CEA, il se définit lui-même de la manière suivante. Hein. Il se définit comme un organisme public de recherche qui intervient dans le cadre de quatre missions, la défense et la sécurité, l'énergie nucléaire, fission et fusion, la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale, science de la matière et science de la vie. Donc, s'appuyant sur une capacité d'expertise reconnue, il participe à la mise en place de projets de collaboration avec de nombreux partenaires académiques et industriels. Alors ça, c'est la définition officielle, hein, c'est celle qu'on trouve sur le site du CEA encore aujourd'hui. Donc, outre le CEA qui va regrouper à la fois des scientifiques et des militaires et dont l'objectif est vraiment de développer une puissance énergétique nucléaire en France, il va y avoir d'autres institutions plus spécialisées. Hein. On peut citer le comité Péon, production électricité électrique d'origine nucléaire créé en 1950. On peut citer Areva, multinationale du nucléaire qui est créée en 2001 et qui gère on va dire toute la partie extérieur du pays dans la production nucléaire avec principalement la question de l'extraction de l'uranium dans les pays, notamment dans les pays du Golfe du Niger, et donc qui va aussi avoir une position centrale dans les relations postcoloniales qui vont se mettre en place dès les années 60-70 entre la France et les pays qui ont été sous sa domination coloniale à partir du 19e siècle, donc la fameuse France-Afrique. Et ensuite, on peut aussi citer l'ANDRA, hein, comme ça a été cité précédemment, hein, qui va être spécialisé dans la gestion des déchets nucléaires, hein, et dont la lumineuse idée aujourd'hui, c'est de les enfuir au fond de la Terre. Donc c'est tout un lobby du nucléaire, hein, qui se met en place, donc à la fois pour financer la recherche scientifique autour du nucléaire, mettre en lien des entreprises, des scientifiques, des organisations politiques, tout tendu vers ce développement d'une énergie nucléaire, mais aussi qui a pour objectif, ce lobby du nucléaire, de diffuser une certaine mentalité nucléaire au sein de la société, hein. Quelque part de convaincre la population des bienfaits de l'énergie nucléaire et de son absence de conséquences écologique, politique, sanitaire, etc. Donc le développement de l'industrie nucléaire, elle est d'abord militaire puis civile, hein, on l'a vu donc avec la question de la bombe atomique. En termes d'énergie nucléaire, hein, c'est la production d'électricité qui est mise en avant. Et cette question de l'énergie nucléaire, enfin d'une production d'électricité entre les mains de l'État, c'est vraiment quelque chose qui est central dans la conception politique du développement du nucléaire, hein. C'est la fameuse question de la centralisation énergétique. En gros, l'énergie nucléaire, elle permet à l'État d'avoir le monopole et le contrôle de la production et de la diffusion de l'énergie. Donc, c'est-à-dire que l'État est tout puissant quant à la production et la diffusion de l'énergie. Ça répond un peu à deux questionnements ou deux volontés de l'État de se positionner de manière indépendante sur cette question-là, une question internationale. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'énergie en France ou la question de l'énergie en France, elle était relativement dépendante, enfin, elle est toujours dans une certaine mesure, mais un peu moins avec l'énergie nucléaire, dépendante des relations extérieures, puisque le pétrole n'est pas produit en France, hein, produit par des pays principalement situés dans le Golfe Persique, et la France donc achète le pétrole à l'étranger. Ça la met dans une position de négociation permanente avec ses autres partenaires économiques. Et un des événements politiques qui va finir de convaincre les politiciens de la nécessité d'une indépendance énergétique pour la France, c'est, ça va être la guerre du Kippour en 1973, hein, une guerre qui oppose Israël à ses voisins du Proche-Orient, et au cours de laquelle les pays exportateurs de pétrole du Golfe Persique qui s'opposent à Israël vont utiliser le blocus économique comme arme pour intervenir dans le conflit, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter d'exporter du pétrole aux pays qui soutiennent Israël à ce moment-là, dont la France. Donc voilà, volonté d'indépendance énergétique. Et ensuite, à l'intérieur du pays, dans les années 50, il y a des grosses grèves, enfin au sortir de la Seconde Guerre mondiale, des grosses grèves dans les milieux de la production énergétique, hein, notamment le gaz et le charbon, grève à caractère insurrectionnel de la part des ouvriers. Et donc l'État voit ça d'un mauvais œil et se dit que en réduisant la masse de salariés et en ayant une entreprise avec placée directement sous sa tutelle, il évite d'avoir des luttes sociales à l'intérieur de la production énergétique, en fait. Donc voilà, souveraineté nationale, indépendance militaire et économique, et donc politique, puissance militaire, hein, c'est les principaux arguments qui vont justifier le développement d'une industrie nucléaire. Et donc tous ces arguments, ils vont être repris par les différents gouvernements, hein, de gauche comme de droite. C'est un peu une constante de l'État français de continuer l'exploitation et de pousser jusqu'au bout l'exploitation du nucléaire. Donc voilà, on peut juste citer la première centrale mise en service en France, hein, en 1978, et c'est à Fessenheim en Alsace. Hein, et elle est toujours en activité aujourd'hui. Donc en même temps que se développe une industrie du nucléaire en France, il y a l'émergence d'un mouvement antinucléaire. On peut distinguer à peu près trois temps dans la contestation antinucléaire en France, hein, schématiquement. Un premier temps dans les années 50-60, où le mouvement antinucléaire il est surtout structuré autour de discours pacifistes et antimilitaristes, hein, liés à notamment l'utilisation de la bombe atomique. Ensuite, dans les années 60, il se dote d'un discours ou d'une sensibilité écologique, hein, avec une critique du nucléaire sur des questions sanitaires, d'impact à la fois sur la santé et sur l'environnement. Donc là, les associations pointent du doigt notamment l'impossibilité de gestion des déchets radioactifs à long terme, le coût que représente la création des centrales, le démantèlement, etc. Et dans les années 70, en plus de ces critiques-là, antimilitaristes, écologiques, va se développer une critique anticapitaliste de l'industrie du nucléaire. Elle va notamment être portée par des organisations d'extrême-gauche extra-parlementaires, hein, d'influence marxiste et anarchiste. Donc l'analyse, elle est la suivante, hein. Le développement d'une industrie nucléaire signifie la centralisation et la maîtrise des ressources énergétiques par l'État. Or, les ressources énergétiques constituent le principal moteur de production et de consommation du système économique capitaliste. Et donc ce sont ces deux aspects-là de l'industrie nucléaire qui sont critiqués, hein, à savoir le renforcement de l'État à travers le monopole qu'il exerce sur la production et la distribution de l'énergie nucléaire, et l'industrie nucléaire analysée comme étant un pilier du système économique capitaliste. Donc s'attaquer au nucléaire, ça veut dire s'attaquer à la structure de l'État et au système économique en général. Donc là, la critique du nucléaire, elle est intégrée à un projet révolutionnaire global. Voilà, donc à partir des années 70, hein, y a des luttes de résistance qui vont se développer contre l'implantation de centrales nucléaires, hein, notamment à Golfech, Chouz, Plogoff, hein, qui vont être des luttes longues, hein, sur parfois une dizaine d'années, qui vont être caractérisées par la multiplicité des tactiques employées, hein, où à la fois il va y avoir une résistance locale de la part des gens qui vivent directement sur les territoires, et qui va être aussi qui va prendre aussi la forme d'actes de sabotage contre les infrastructures du nucléaire, hein, comme EDF ou d'autres, et contre les organisations politiques qui soutiennent et qui mettent en œuvre cette politique du nucléaire. En gros, l'apogée du mouvement antinucléaire, c'est la fin des années 70 et le début des années 80, avec vraiment une grosse activité de, à la fois donc de sabotage, d'attentats, de pression exercée en permanence contre les tenants du lobby nucléaire et des manifestations très massives hein, à Plogoff, tout petit village de Bretagne. Il y a des manifestations qui regroupent 60 000 personnes qui s'opposent physiquement à la création de ces centrales. Et en fait, le tournant assez majeur pour le mouvement antinucléaire, ça va être l'arrivée au pouvoir de la gauche en 1981, puisque Mitterrand, il comprend bien l'intérêt qu'il y a à aller dans le sens des antinucléaires au cours de sa campagne présidentielle. Il va notamment promettre un grand débat national sur la question du nucléaire, sur s'il faut fermer les centrales ou pas. Et en fait qui n'aura jamais lieu, ou en tout cas enfin qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale entre les députés et qui seront unanimement d'accord pour poursuivre l'exploitation du nucléaire. Et du coup ce discours là de Mitterrand de questionner à l'échelle du gouvernement la pertinence d'une énergie nucléaire, il va séduire une partie du mouvement hein, qui va se rallier au Parti socialiste hein. Et qui va commencer à institutionnaliser une lutte qui jusqu'ici se gardait de toute alliance politique qui serait intéressée. Quoi. C'était une des caractéristiques du mouvement antinucléaire, c'est qu'il s'organise en dehors des partis politiques et de manière horizontale. Voilà donc un bref aperçu de ce qu'a pu être l'histoire du nucléaire et des mouvements antinucléaires en France. Hein. Donc voilà.
Eh ben merci, et si vous voulez avoir un aperçu moins bref, vous pouvez retrouver un texte un peu plus long sur lundi matin. Et de la lutte anti-nucléaire, on enchaîne directement au carnaval qui a eu lieu à Montpellier. Et carnaval qui nous a redonné le sourire, il y avait un air de fête à Montpellier.
Et oui, il y avait un air de fête à Montpellier, mais figure-toi que bien qu'il n'y a pas qu'à Montpellier qu'il y a un air de fête. Et si je prends cet exemple, et ben c'est un parmi tant d'autres. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier ce mardi soir, le 28 février ? Et ben c'est entre 400 et 500 personnes qui ont décidé de participer au traditionnel carnaval des gueux dans le centre-ville de Montpellier. Donc ce carnaval des gueux, ça existe depuis plusieurs années et chaque année c'est l'explosion voilà, de la joie populaire et souvent bah, ça arrive à s'extraire un petit peu du dispositif sécuritaire qui est mis en place pour empêcher les personnes de pouvoir bien s'amuser pour l'occasion de ce carnaval. Alors cette année l'appel a été lancé puis reprenait un petit peu du coup cette idée de lutte actuellement. Donc du coup l'appel il disait: nous ne sommes pas de celles et ceux qui espèrent encore, nous ne votons pas ou si peu, nous ne travaillons pas ou si peu, nous n'avons pas de logement ou si peu, nous ne demandons pas le droit de vivre hors de leur pouvoir, nous sommes ingouvernables. Guerre à la civilisation, réquisition, blocage et sabotage. Donc ce carnaval a pu retourner un petit peu le centre-ville de Montpellier, donc notamment la boutique d'America Vintage, Agatha, Fildar ou Orange ou Dobé, je dis ça pour si jamais il y avait des personnes qui avaient envie d'aller demain matin profiter d'aller faire les soldes des compagnies dans le centre-ville de Montpellier. Ça ne sert à rien, les vitrines ont été explosées à coups de barres de fer. De même, si vous aviez envie d'aller vous promener pour acheter un appartement, ça ne sert à rien non plus. Toutes les agences immobilières ont été étoilées. Il y a notamment des tags un peu sympas qui ont été écrites comme location gratuite. Et donc, au-delà de ça, il y a des petits tags un peu rigolos, ni droite, ni gauche, ni trop glycérine. Voilà. Non mais voilà, c'était vraiment la fête quoi. Donc des pétards bien sûr parce que c'est la fête, des feux de poubelle pour brûler le bonhomme carnaval, et si ça empêche les flics de passer, bah ça tombe bien. Et affrontement avec la police bien sûr, parce que les policiers et les policières étaient pas hyper ok que tout le monde s'amuse. Il n'y a que 4 personnes qui ont été interpellées. Et du coup, bah, a priori, ils sont interpellés. J'ai un peu plus de nouvelles sur ce qui leur est arrivé. Les pauvres. Mais du coup, voilà, quoi. Ça, c'était l'exemple d'une explosion parmi tant d'autres. Et puis, on peut penser, bien sûr, aux révoltes des lycéennes et des lycéens qui bloquent leur lycée et se baladent à Paris ou ailleurs. Mais du coup, il y a à Montpellier, il y a à Paris et il y a dans d'autres villes, mais aussi il y a des manifs à Nantes.
Et oui, à Nantes, on a laissé traîner notre micro parce que là-bas aussi, il y a eu des affrontements, d'une manifestation également très festive, et on a fait de tout ça un petit montage qu'on vous fait écouter maintenant.
Nantes. Samedi 25 février 2017, des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous dans la rue pour protester et combattre Le Pen et ses militants frontistes attendus le lendemain au Zénith. Préparée depuis plusieurs mois, la manifestation antifasciste nantaise associe des syndicats, des associations et d'autres collectifs comme à l'abordage. Pour beaucoup, au-delà de la lutte contre le Front National, il s'agit surtout de condamner plus largement la récupération des idées frontistes par les partis politiques et la diffusion massive de ces mêmes idées jusqu'au premier cercle du pouvoir. Au croisement de la présidentielle, des violences policières et de la volonté de déserter le champ politicien pour se rendre ingouvernable, la manifestation nantaise était attendue. Elle fut offensive.
Radio Canu, reportage.
Pourquoi sommes-nous là? Parce qu'il nous semble scandaleux que le Front National mène sa conquête de Nantes sans que rien ne se passe pour les empêcher. Derrière le visage du Front National, nous voyons la logique sécuritaire qui se déplie dans tous les aspects de la politique. Le FN est le parti du retour à l'ordre, le parti de l'impunité de la police. Alors que la jeunesse parisienne manifestait contre les violences policières, le Parlement votait un projet de loi étirant largement le permis de tirer et la présomption d'innocence pour les policiers violents. Le concept de présomption de légitime défense est porté depuis des décennies par le Front National. Il est aujourd'hui voté.
Aujourd'hui, pas vraiment de tête de cortège offensive, puisque les Kahoué noirs se placent derrière le syndical et ses chasubles au vol. Derrière encore, plusieurs milliers de personnes suivent en chantant. Le dispositif policier est formé de gendarmes mobiles qui barrent une rue perpendiculaire au trajet d'une quarantaine de baqueux mobiles, tous équipés de flashballs, d'un hélico également qui apparaît très rapidement au-dessus du ciel nantais et qui coordonne l'action des flics. Pierre par pierre et mur par mur, nous détruisons la préfecture. La manifestation et les manifestants accélèrent le pas.
Génération ingouvernable !
Face aux manifestations, face aux habitants des quartiers, face aux exilés, la police se constitue à présent comme une force autonome, largement influencée par les idées d'extrême droite sur fond d'état d'urgence. D'un côté, le FN porte des idées racistes et sécuritaires dans le champ de la politique parlementaire. De l'autre, les policiers qui manifestaient armés à l'automne dernier portaient des revendications d'extrême droite dans la rue. Nous avons regardé stupéfaits ces manifestations de policiers cagoulés, la manière outrageante dont elles ont tenté de se faire passer les forces de l'ordre pour la première victime d'un conflit qu'elle a elle-même provoqué. Le FN n'agit pas seulement comme un spectre qui hante le champ politique français. Il agit souterrainement au sein de l'appareil policier. Il profite, comme il sait si bien le faire, de la logique sécuritaire construite par nos gouvernants, qui balade la police d'état d'urgence en milieu social, des aides en contre-sommet, et en fait le principal réceptacle de la colère de rue.
Oh, sa mère ! Lutins, policiers sur deux, vote pour Le Pen aujourd'hui. Dans les pratiques quotidiennes de la police, qui multiplie les primades racistes à l'encontre de fils et filles d'immigrés, qui menace explicitement des militants et militantes, ou se comporte dans certains quartiers comme une force d'occupation coloniale. La violence est à présent décomplexée dans certaines unités de police, comme la BEC ou les compagnies d'intervention, responsables d'un grand nombre de mutilations à coups de flashball ces dernières années. Nous n'oublions pas, bien sûr, les centaines de manifestants blessés par la police depuis plus de 10 ans. Et nous pensons aujourd'hui plus particulièrement à ceux qui sont morts assassinés par des agents et à celles et ceux qu'on a humiliés d'abord par le viol et ensuite par la complaisance dont l'État et la justice ont toujours fait preuve face aux forces de l'ordre.
Plusieurs banques habituées d'être les cibles privilégiées du printemps dernier sont en état de siège. Des plaques de bois sont disposées devant chaque baie vitrée. Certaines seront tout de même arrachées. Des graffitis fleurissent sur les murs de la ville.
Plutôt casseur qu'électeur, police, SO du FN, cassé par accident, plutôt marteau que fossile.
Le cortège passe devant une boutique de Vinci qui a choisi de baisser ses stores pour protéger ses vitres. Qu'à cela ne tienne, les stores sont arrachés.
Vinci, dégage. Résistance et sabotage.
Parce que là, ça, voilà, on casse. Bon, Vinci, on peut casser. Bon, Vinci, on peut casser. Ouais, là-bas, parce que là, c'est très chaud.
Théo, Adama, Rémi, Zied, Luna. À chaque fois, la jeunesse est au premier rang à subir les assauts de violence d'État. Aujourd'hui, nous parvenons à porter un geste commun. Celui de manifester ensemble contre l'extrême droite et ses idées. À cette manifestation unitaire contre le FN, le gouvernement oppose une militarisation des centres-villes, quadrillée par des centaines de policiers, survolés par un hélicoptère, mis en état de siège. Encore une fois, la boucle bouclée. Nous répondons aujourd'hui qu'être ensemble dans la rue, c'est construire, manif après manif, la confiance pour renforcer nos luttes et faire face, quelles que soient nos pratiques, à la violence policière qui nous accule au racisme et au reconstruction.
Ça ne fait plus rien.
Alors que la manifestation est arrivée au château et que les organisateurs prennent la parole sur les camions, des groupes décidés de ne pas s'arrêter ici dépavent la rue et font des petits tas de pavés qui serviront à résister aux charges des flics. Tandis qu'à la faveur d'une énième bavure policière, les banlieues flambaient une nouvelle fois en ce mois de février, on trouvait ici et là des tribunes pour nous expliquer que, s'agissant des quartiers difficiles, le gouvernement socialiste n'avait rien fait. Or, à la lecture de ces assertions stupides, dignes des plus pauvres commentaires sportifs, il faut bien comprendre évidemment qu'elles sous-entendent que le gouvernement n'avait rien fait en faveur d'eux. Or, beaucoup de choses ont été faites pour les quartiers. Mesures, actes, lois, discours que la mémoire instantanée du temps des médias, qui est aussi celui des égarements politiciens, s'est bien gardée de nous rappeler.
Assignation à résidence prolongée, perquisition administrative nocturne injustifiée, poursuite de la rénovation urbaine et de la gentrification, repoussant toujours plus loin des centres-villes les franges les plus pauvres de la population, instrumentalisation de polémiques surfant ouvertement sur la vague islamophobe, poursuite et justification médiatique de la politique des contrôles aux faciès, la liste de ce qui a été fait par les bouffons qui s'apprêtent à rendre les clés du gouvernement est donc bien longue. Mais elle aurait pu effectivement passer inaperçue, tant elle s'inscrit dans la continuité et l'approfondissement de la gestion postcoloniale qui constitue à la vérité l'alpha et l'oméga de la politique menée dans les dits quartiers sensibles.
C'est d'ailleurs au beau milieu de cet incendie que le Parlement, histoire de bien nous faire comprendre de quel côté penche la balance, a voté la loi de sécurité publique, finalement promulguée ce lundi 28 février.
Celle-ci, en renforçant le pouvoir des flics d'user de leurs armes à feu, en garantissant notamment leur anonymat et en doublant les fameuses peines pour outrage et rébellion, vient donc s'ajouter à la longue liste de ce qui a été fait dans les banlieues. Le renforcement tout azimut de l'impunité de la police et de l'arsenal à sa disposition pour asseoir sa domination sur ceux qui ont été préalablement désignés par le pouvoir comme indésirables.
Au-delà de son contenu, et outre le fait qu'elle s'insère dans un flux particulièrement dense de dispositions favorables aux flics, le contexte même de l'élaboration de cette loi, pour mémoire rédigée sous la pression de manifestations spontanées d'agents de police en service, nous montre qu'à présent, le gouvernement n'a plus seulement peur de ceux qui sont pour lui de potentiels émeutiers, mais qu'il a également peur de ceux-là même qui sont chargés de les contenir, peur donc de sa propre police, dont la transformation en milice s'affirme chaque jour un peu plus.
Une des plus belles conneries entendues lors des émeutes de février aura été celle accusant les émeutiers de favoriser la montée du Front National. Il fallait se pincer pour se persuader que ce n'était pas au mieux une blague et au pire un cauchemar. Ainsi donc, ceux qui sont les cibles désignées de tous les fachos du pays, que ce dernier soit ou non des électeurs assumés des FN, seraient également les responsables de sa montée. La boucle est bouclée. D'où que l'on regarde, rien à faire, tout ça, c'est bel et bien leur faute.
Ainsi, summum de l'humiliation, c'est donc l'éthique de la révolte que d'aucuns cherchent se faisant à soustraire aux habitants des quartiers populaires, et ce, sous le prétexte tordu de faire barrage au Front National, comme une bonne vieille morale de Noël. Surtout, restez sages ou vous aurez les fascistes.
Rien ne saurait pourtant faire oublier que ce sont bien la conversion de la plus grande partie des élites dirigeantes à la rhétorique identitaire et conservatrice et à son adhésion à un traitement des inégalités par le seul biais du sécuritaire qui permettent aujourd'hui aux idées fascistes de se prétendre chaque jour un peu plus majoritaires. Ce texte aurait pu s'appeler « Soyez sages ou vous aurez les fascistes », mais on dirait que peut-être les fascistes sont déjà là, surtout quand ils interdisent au soutien aux migrants et aux migrantes de s'exprimer à la presse.
Jolie transition.
Et oui, c'est plutôt nouveau ce que je vais vous raconter. Alors, il s'agit d'un militant qui était très actif dans la jungle des Calais avant qu'elle soit démantelée et qui a été mis en examen il y a quelques mois pour avoir aidé des amis migrants à traverser la Manche en canot pneumatique. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une mission ambitieuse, mais de toute manière, il a essayé. Et en août dernier, il a été arrêté à son domicile. En attendant de son procès, un juge a défini un cadre très strict de contrôle judiciaire, et ce qui est assez nouveau parmi tous les dispositifs judiciaires de répression qu'on avait pu découvrir pendant la belle saison de la lutte contre la loi de travail, comme les interdictions à manifester, les interdictions à se rendre dans tel ou tel lieu. Et bah, écoutez bien ce que les juges du tribunal de Boulogne-sur-Mer ont décidé pour cette personne. En attendant d'avoir un vrai procès. Alors, interdiction de se rendre à Grand-Sainte ou à Coquel, qui se trouve à quelques kilomètres de Calais, sauf pour prendre l'autoroute. Interdiction de contacter ses complices présumés. Mais il y a plus original, cette personne a l'interdiction formelle de parler avec tout journaliste et toute journaliste. Ce qui est une vraie première et qui sera aussi une décision illégale. Pour justifier ses placements sur contrôle judiciaire, le juge d'instruction, qui est d'ailleurs un ancien commissaire de police, invoque l'article 138-9 du code de procédure pénale qui encadre les contrôles judiciaires et qui, pour faire court, permet au juge d'interdire à une personne de rencontrer un groupe de personnes qui seraient par contre impliquées dans l'enquête. Donc, ça, c'est pas du tout le cas de cette décision parce que les journalistes ne sont pas du tout impliqués dans cette enquête. Et selon les dires du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature, ce sera une décision complètement illégale. Alors, apparemment, cette personne aurait fait un recours contre ce contrôle judiciaire. Le problème étant que les journalistes ne peuvent pas le contacter. Donc, on n'a pas plus d'informations. On espère d'en avoir bientôt.
Et on va continuer très rapidement à la mairie de Calais qui interdit aussi la distribution des repas aux migrants. Donc on vous l'a déjà dit plusieurs fois, il y a maintenant 300 à 400 migrants qui continuent à vivre à Calais depuis le démantèlement de la jungle en octobre dernier et qui n'auront du coup en principe plus accès aux repas donnés par des bénévoles. C'est en tout cas la volonté de la maire, du coup les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, dont on vous parle régulièrement ici, qui a signé jeudi matin un arrêté visant à interdire la distribution des repas aux migrants. Et oui, on peut écrire des arrêtés là-dessus. Une interdiction que l'élu a exprimée mercredi lors de la venue du ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, dans sa ville. On voit ici l'alliance UMP-PS. Du coup, ce ministre, qui s'est dit d'accord sur ce point, déterminé à s'opposer fermement à tout ce qui fait fixation. Fixation, j'entends du coup à tout ce qui fait que les personnes vont rester statiques, voire s'installer à un endroit. Car évidemment, tout dispositif d'accueil serait selon lui une forme d'appel. Je cite. En revanche, nous n'empêcherons pas la distribution de repas, a-t-il déclaré. Par contre, la maire l'a repris et donc Natacha Bouchard a dit, elle, être personnellement opposée, même si c'est humainement difficile à dire, à tout dispositif humanitaire à Calais, qu'il s'agisse des repas ou des douches mises en place par le Secours catholique dont on vous avait parlé. Enfin, au-delà de ces phrases complètement scandaleuses, même si c'est humainement difficile à lire, ça se rajoute du coup à tout ce qu'on a pu dire dernièrement dans Scania Info sur la violence de l'État, des pouvoirs publics et l'inhumanité. Il y a vraiment plus de honte à être inhumain. C'est quelque chose qu'on peut revendiquer aujourd'hui quand on est un élu de la République. Je sais pas, j'ai rien d'autre à dire.
Plus la banalité du mal, quand même. Quoi. C'est vraiment ça. C'est fait pour illustrer les propos d'Anna Arendt sur la banalité du mal. C'est-à-dire le fait que n'importe qui peut se transporter en monstre, en fait. Enfin, tu vois, et ça rejoint ce que disait le texte précédent. Je sais pas pourquoi tout le monde se moque de moi. Si ça rejoint le texte que disait précédent, un truc qui est hyper intéressant, c'est quand elle parle d'appel. En fait, ça, c'est précisément les termes que utilisait le Front National. C'est la rhétorique du Front National depuis des années. C'était l'appel d'air. C'est-à-dire si tu donnes des prestations sociales, etc., aux migrants, ça va créer un appel d'air, ce qui est complètement ridicule, et on voit que c'est un truc qui a été dénoncé par le PS et le RPR, enfin c'est devenu les Républicains depuis, dans les années 95, et maintenant ils reprennent parfaitement ce discours.
Donc on avait essayé de faire bref pour pouvoir parler du gaz de schiste.
J'ai trouvé de drôles de rumeurs sur le gaz de schiste. Il paraît que ça pourrait contaminer les eaux de source, que ça tuerait les cultures aussi. Certains ont dit qu'ils ont pu mettre le feu à leur eau courante. On parle aussi de cas de cancer. Oh, Steve, ça a l'air vilain, non?
Il nous faut plus de gaz.
Attention, on va en arriver à des extrémités. Il y a des dépôts qui vont se mettre à flamber. Il ne faudra pas demander d'où ça vient.
Et oui, plus de gaz et la BNP en veut plus et toujours plus, puisque après Huggy les bons tuyaux, c'est la BNP les mauvais tuyaux. Et donc ça... Oui, je suis désolé, j'étais obligé de la faire. Bref, il y a un rapport qui est sorti mercredi, donc ce mercredi, qui a été publié, donc en grande partie rédigé par une ONG qui s'appelle les Amis de la Terre, en collaboration avec... Rainforest Action Network et SAVE, alors attention, vous allez rien comprendre, RGV from LNG. Donc ça veut dire en gros SAVE Rio Grande Valley from Liquefied Natural Gas. Donc voilà, donc c'est des associations qui sont basées donc, dans le Texas. Donc ils ont publié un rapport qui dénonce en fait un financement de la BNP Paribas, donc la fameuse banque que tout le monde connaît, donc qui finance un peu sans vraiment le dire des projets qui sont liés à des énergies dites fossiles. Et donc en fait, ben là, la BNP, en gros, elle aurait aidé en énorme partie le montage financier d'un terminal d'exportation de gaz de schiste. Donc qui est un projet qui est porté par Texas LNG dans la vallée du Rio Grande, d'où le fait que les associations que j'ai citées tout à l'heure soient associées à ce fameux dossier. Donc ça c'est sur la côte sud du Texas et pour la modique somme de 2 milliards de dollars. Donc voilà. Donc le rapport dit que en plus que le rôle de la banque serait assez primordial puisque si la banque avait refusé de financer, ben, en gros le projet n'aurait pas existé. Et donc pour rappel, ce projet de une espèce de pipeline fait partie de l'un des 60 projets de terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié pour écouler du coup à l'étranger la surproduction de gaz de schiste donc aux États-Unis puisque c'est 59 puisque aux États-Unis vous savez tous très bien que c'est la fête du gaz de schiste et donc voilà et donc ce Et donc ce rapport dénonce un peu le fait que la banque a signé quand même des accords stipulant qu'elle s'engageait à ne pas justement participer à des projets, à de tels projets, donc notamment liés aux hydrocarbures non conventionnels. Et donc en fait, suite à ces accusations, la banque a fait en gros ah mais on savait pas trop. Et puis en plus on méconnaissait un peu le dossier, on savait pas trop ce qui se passait. Mais alors vu les sommes impliquées, c'est un peu bizarre quand même, on se trouve. Mais voilà, mais ils ont quand même dit. Peut-être qu'on va essayer d'étudier un peu la question, mais voilà, ils sont très très évasifs sur le sujet. Donc voilà, mais c'est un truc un peu en cours. Le dossier est sorti juste ce mercredi, donc on attend un peu de voir la suite. Et moi, j'en profite pour parler aussi d'autres choses parce que ce projet de gaz là aux États-Unis, en fait, ça rappelle aussi fortement un projet de gazéoduc, mais là on n'est pas aux États-Unis mais on est en France, dans la vallée du Rhône, puisqu'il y a un projet qui s'appelle Eridan, un projet de 220 km entre la vallée du Rhône et entre les Bouches-du-Rhône et la Drôme, donc qui va passer près de toutes les belles centrales nucléaires dont on a parlé tout à l'heure, donc dont Marcoule, Tricastin. Et donc voilà, donc c'est Engie, hein, qui projette un peu de faire ça. Et donc voilà, ça fait encore partie des projets souterrains. Bref.
Et donc, tu auras l'occasion de nous en reparler plus tard, je suis sûr. Voilà, ouais, de faire tout un petit dossier là-dessus.
Voilà, tout à fait.
Hebdomadaire.
Voilà.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Et donc, c'est l'agenda. Très vite, parce qu'il est tard. Du coup, je vous dis juste qu'il y a grève et manif de la santé et de l'action sociale mardi 7 mars, qui fait suite au mouvement de grève du 8 novembre des personnels des hôpitaux, des cliniques, des structures sociales et médico-sociales. Et la manif à Lyon, elle aura lieu à 14h, donc mardi, de la préfecture jusqu'à l'hôtel de ville. Pour l'agenda, je vous conseille d'aller sur rebellion.info et vous aurez un peu plein d'infos. Et aussi le 8 mars, il y a plein de choses à Lyon et ailleurs, et toute la semaine aussi au mois de mars, il y a pas mal de docu, de pièces de théâtre, de choses comme ça. Il y a une grève le 8 mars. Enfin bref, du coup, vous retrouvez tout ça sur rebellion.info et ailleurs.
Et tout de suite sur Radio Canu, c'est Noise Pollution. D'ici là,
on se retrouve la semaine prochaine et paniquez pas
et niquez tout.